Il est 8h23 à Paris, voici la revue de presse des journaux français. Bonjour Frédéric Couteau.
Bonjour Arnaud, bonjour à tous.
À la une, répondre et vite.
Oui, l'exécutif est désormais dos au mur face au mouvement des gilets jaunes qui pourrait bien encore se durcir et s'élargir. Le gouvernement se doit de faire des propositions de sortie de crise. C'est la tonalité de la presse ce matin, à commencer par Les Échos. Maître des horloges, se définissait Emmanuel Macron depuis ce 1er décembre qui a embrasé Paris. L'horloge est devenue le maître. L'exécutif est dans une course contre la montre, s'exclame le quotidien économique. Casser l'escalade en cours, éviter l'agrégation des mécontentements quand des lycéens, des ambulanciers, des agriculteurs se mettent à enfiler le gilet. Le président qui détestait la pression doit désamorcer en urgence le nouveau samedi noir qui se profile. Comment ? S'interrogent Les Échos. Un moratoire des taxes carburant pouvait peut-être désamorcer le mouvement il y a 15 jours. Il n'est plus qu'un préalable insuffisant, reconnaît l'exécutif. Les reculs qu'il hésite à concéder aujourd'hui seront peut-être largement dépassés demain. Il faut donc viser juste, estime encore le quotidien économique. Chaque jour qui passe voit se remplir le cahier des revendications et se fracturer l'assise politique. Macron court après le temps.
En attendant, où êtes-vous, monsieur le président ? S'interroge le Républicain Lorrain.
Scrutez-vous la carte pour situer Baden-Baden, comme De Gaulle en 68, ou encore cherchez-vous conseil auprès de Francis Joyon sur l'art et la manière de garder un cap ? Emmanuel Macron n'aime pas réagir sous la pression, explique son entourage. Ce qui, en temps ordinaire, peut passer pour une qualité, devient aujourd'hui une marque de faiblesse, pointe le Républicain Lorrain, ou à tout le moins un aveu de profond désarroi. Pendant que le président réserve ses marques d'affection aux forces de l'ordre, qui en ont certes bien besoin, le Premier ministre, lui, envoyé en première ligne pour recevoir les coups, peine à trouver des interlocuteurs avec qui négocier, et la situation s'enlise.
Alors, vers quoi s'oriente-t-on ? S'interroge le Figaro.
Pour l'instant, on vient de l'apprendre il y a quelques instants, vers un moratoire de la hausse de la taxe sur les carburants, que s'apprêterait donc à annoncer le Premier ministre Édouard Philippe, mais on a aussi parlé, pointe le Figaro, de dissolution, de référendum, de rétablissement de l'impôt sur la fortune, d'états généraux de la vie chère, de taxes sur les intérêts et les profits des banques, d'un Grenelle de la fiscalité ou encore de la dépense publique. L'enjeu, c'est de trouver des solutions d'immédiateté, mais le problème, c'est qu'on ne sait pas conjuguer solution et immédiateté, confie un ministre. Emmanuel Macron cherche pourtant. Hier lundi, le chef de l'État a commencé par vider son agenda. Emmanuel Macron a également annulé un rendez-vous prévu ce mardi avec des associations d'élus locaux. Il a enfin reporté son déplacement en Serbie, initialement prévu pour demain, mercredi et jeudi. Du temps pour préparer sa réponse aux gilets jaunes et pour la présenter aux Français. Mais, prévient le Figaro, l'horloge tourne et l'acte 4 se rapproche dangereusement.
Hier, la Croix a appelé à une grande réforme fiscale. Ce matin, le quotidien catholique expose ce qui pourrait en être le premier pas, à savoir la restauration de l'impôt sur la fortune.
Oui, c'est l'une des revendications les plus citées parmi toutes celles que portent les gilets jaunes. De nombreux Français, en effet, pointent la Croix. Ont le sentiment que les plus favorisés savent prendre, mais ne se préoccupent guère de donner. Les premiers de cordée, pour reprendre une métaphore chère à Emmanuel Macron, semblent avoir coupé ce qui les reliait au reste de la société.
Dans une tribune publiée par Libération, Dominique Méda, professeur d'université à Paris-Dauphine, Pascal Lokiek, qui est professeur de droit à Paris 1, et Éric Heyer, directeur adjoint à l'Observatoire français des conjonctures économiques, expose les racines du mal à leurs yeux.
Oui, la colère des classes populaires et moyennes qui s'expriment aujourd'hui, affirme-t-il, est le résultat de 20 ans de politique néolibérale pendant lesquelles on a voulu nous faire croire au marché autorégulateur et à la culpabilité de notre modèle social. Ce sont avec ces politiques qu'il faut rompre. Une autre voie est possible, affirment les trois universitaires. Une voie permettant à la fois de s'occuper du péril écologique, dont nous sommes désormais tous conscients, et de la question sociale en profondeur. Que faudrait-il faire ? Relancer au plus vite, affirme-t-il, l'activité de manière sélective et non pas la croissance qui mélange production utile et toxique, notamment en investissant massivement dans les mesures permettant d'engager notre pays dans la grande bifurcation nécessaire à la reconstruction de notre économie. Exemple, un investissement conséquent au moins 20 milliards d'euros dans la rénovation thermique des bâtiments, dans les énergies renouvelables, dans l'agroécologie, ce qui nous permettrait, affirment les trois universitaires, non seulement de réduire la dépendance de notre pays par rapport à l'extérieur, mais devrait aussi être massivement créateur d'emplois.
En tout cas, pour le monde, nous sommes à un point de bascule du quinquennat.
De fait, à la lumière de la crise actuelle, tous les principes qui avaient fait le succès de la campagne du candidat Macron se sont retournés pour faire apparaître la fragilité du président. L'opération Commando d'alors n'est plus qu'une solitude, accompagnée par une poignée de fidèles placés au poste clé. La page blanche sur laquelle devaient s'écrire les réformes est devenue une scène désertée que le parti présidentiel ne parvient pas à occuper. De plus, poursuit Le Monde, la remise en cause des corps intermédiaires, systématiquement contournée depuis le début du quinquennat, est un handicap majeur, alors qu'ils seraient si cruciaux pour canaliser un conflit social de ce type. La modernité affichée, finalement, s'est inversée en une incapacité à comprendre les nouvelles formes d'expression et de mobilisation d'un mouvement inédit. La posture régalienne s'est muée en une inaptitude de plus en plus visible à obtenir des résultats en matière de maintien de l'ordre. Le courage réformateur mis en avant se heurte à l'image de président des riches, accolé en raison des premières décisions fiscales, notamment sur l'ISF.
Enfin conclut Le Monde, un mélange continu d'arrogance et de provocation verbale a achevé de refermer le piège actuel.
Oui, pour Le Monde, il sera difficile de sortir de ce piège sans amender en profondeur un mode de gouvernance qui n'a pour l'heure en rien interrompu le cycle délétère des détestations successives des présidents en place. Cette réforme-là, conclut le journal, est la plus exigeante de toutes. Elle commence par soi-même pour parvenir enfin à convaincre les autres.